possible à l'homme de ne pas s'interroger sur la composition de son être. Il y a comme un mystère dans la relation de chacun à soi-même. En particulier, notre rapport à notre corps constitue une sorte de bizarrerie, une énigme, comme l'ont dit plus d'un philosophe, et en particulier en notre siècle, Gabriel Marcel. Notre corps, c'est lui-même. Comment le nier? Quand nous nous sommes mal, nous nous sommes mal. Lorsque notre corps est touché, nous sommes en cause. Et cependant, notre corps, nous pouvons en quelque sorte le considérer comme quelque chose que nous avons et qui se distingue ainsi de notre être le plus essentiel. Nous sommes notre corps, nous avons notre corps. Et entre ces deux propositions, qu'il nous faut bien admettre à la fois, nous ne savons pas très bien comment faire la jointure. Les philosophes ont généralement oscillé entre deux positions, en ce qui concerne précisément ce mystère, évidemment, de chacun son corps, ou bien ils ont été dualistes, ou bien ils ont été monistes, les deux positions antithétiques. Certains ont conclu en s'appuyant sur une conscience que mon corps ce n'est pas moi. Alors, deux principes métaphysiques coexistent dans la personne humaine, que l'homme est radicalement double dans sa constitution. Et la tradition de Platon, que nous avons évoquée dans le cours de pensée contemporaine il y a quelques semaines, la position de Platon est une position type d'un tel dualisme, où le corps est considéré comme la tombe et la prison de l'âme. À l'autre extrême, et spécialement dans les temps modernes, d'autres philosophes ont été monistes, affirmant que l'être de l'homme est une pièce, en quelque sorte. Il n'y a pas de distinction de principes fondamentaux à y faire. Toutes les philosophies matérialistes correspondent à une affirmation monistes. C'est pas bon. Il est son corps et il n'est rien que son corps. Et les fonctions d'intelligence, par exemple, on connaît bien à l'homme, on les considère comme des fonctions de ce corps. Je vous rappelle cette formule, citée souvent dans les cours, d'un matérialiste du 19e siècle. Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Alors je crois que c'est un certain Fechner, mais j'avoue ne plus savoir avec certitude. Alors c'est Fechner qui dit cela, et au fond, beaucoup de savants semblent admettre cette idée-là. Cette idée s'accorde assez bien avec les théories courantes de l'évolution. On suppose que l'homme n'est rien d'autre fondamentalement qu'un animal, mais un animal plus évolué que les autres, dont l'intelligence s'est développée davantage. Un animal plus complexe, mais sans plus de distinction interne dans sa composition que dans le cas de l'animal. À cause de cette énigme, la question de la composition interne de l'individu humain, de la constitution de l'être de l'homme, non pas considéré socialement, collectivement, dans le genre humain, dans chaque individu, c'est une question qui ne peut pas nous laisser indifférents. Et je crois que Il y a comme une solidarité entre la vision du monde globalement et la position que l'on prend sur la composition de l'individu humain. En tout cas, c'est une chose frappante que les dualistes en matière d'anthropologie, de philosophie de l'homme, Platon, ont aussi été dualistes dans leur vision globale du monde, du réel. Que les matérialistes monistes, qui ont un seul principe en ce qui concerne l'homme, l'ont été aussi pour la vision du réel dans son entièreté. C'est quelque chose qui peut nous frapper et dont je crois qu'elle correspond à la conscience pure, dans le cas de la plupart des philosophes, au fond l'homme est la créature en image de Dieu, où le sens du réel créé se concentre, quel sens qu'il résume dans son être ce qui est vrai de la structure du monde en général. Cela dit, il nous faut tout de suite ajouter, si la question est intéressante et importante, tous les théologiens d'éthique chrétienne, tous ceux qui ont lu la Bible, n'ont pas discerné la même réponse à la question. Et qu'il y a concurremment trois réponses principales à propos de la composition de l'homme. Nous devons à un moment donné, que je pense qu'on peut parler au présent, parce qu'il y a des représentants des trois tendances aujourd'hui, que donnent des théologiens, ou au moins des prédicateurs, évangéliques. Ces trois positions correspondent très simplement à 1, 2 et 3, correspondent au monisme anthropologique, une seule partie, c'est-à-dire une partie où on ne vise pas l'homme considéré comme toute une pièce, monisme anthropologique, deux parties, c'est ce qu'on appelle la dichotomie, position dichotomiste, c'est-à-dire arriver dans deux. Et finalement, trois, trichotomie. Certains prétendent que une trichotomie ne viendrait pas de la racine 3, mais de la racine tricot, cheveux, et ce serait des coupeurs de cheveux en quatre, que des trichotomistes. Je ne crois quand même pas. En tout cas, l'usage courant terme, c'est un usage qui évoque une division tripartite de l'individu humain, qui pense que la composition de l'individu humain est triple. Alors, tout de suite, j'annonce la couleur, et en même temps, je crois que j'énonce un fait historique. Je crois que la dichotomie est la position réellement fondée uniquement, et je crois, alors absolument incontesté et incontestable, que c'est la position qui a été très largement majoritaire, peut-être à 90% dans l'histoire de la pensée chrétienne, et spécialement orthodoxe et évangélique. Je crois que le pourcentage s'élèverait bien au-dessus de 90% si on connaît les théologiens avec des marques de compétences, non douteuses, de compétences en langage originel de l'écriture, par exemple. C'est vraiment la position dominante. Il y a au moins une confession de foi de la Réforme, une confession helvétique postérieure, qui définit la dichotomie. Il y a en fait une vérité de foi à professer dans la confession. Je pense que c'est avec des raisons qu'on affirme la dichotomie. Je ne voudrais pas, en plein lieu pour ma part, dans une confession de foi, parce que je ne pense pas que le problème soit important à ce point, mais c'est certainement la position ordinaire dans l'enseignement chrétien orthodoxe. La position moniste en matière d'anthropologie, il dit il n'y a pas de division de deux parties, Jadi murung-murung lagi itu. Saya ke Arnis Pil. Setelah, le désigne les aspects d'un être unique, indivisible. Ces positions monistes, c'est au fond quelque chose de modèle, et je dirais même de spécifique au XXe siècle. On peut considérer que la position thomiste, position influencée par le fruit d'Aristote, va dans cette direction, et peut-être pas dans cette direction. Mais en fait, même les thomistes ont été dichotomistes, leur définition propre, puisqu'ils ont en particulier affirmé l'immortalité de l'âme individuelle qui se sépare du corps, se sépare de plusieurs parties. Chez Aristote, l'âme étant définie comme la forme du corps, il semble un peu difficile qu'elle continue à subsister quand le corps se dissout. Et c'est pourquoi certains aristotéliciens du XIIIe siècle, expliqué ce matin dans le cours, ceux qui existaient refusaient l'idée de la survie de l'âme individuelle. Chez Aristote, ça semble être assez comme conséquence. Mais les aristotéliciens chrétiens, d'après saint Thomas d'Aquin, ont affirmé cette mortalité après la mort du corps, ce qui est une dichotomie. On peut dire qu'avec la définition âme-forme du corps, la pensée du type aristotélicien va vers le monisme, mais pas juste au monisme. C'est seulement au XXe siècle, finalement, je crois, que des théologiens assez en renom ont défendu une thèse de type moniste et que même les évangéliques ont été tentés de les suivre. Les deux hommes qui ont le plus contribué à cette tendance vers le monisme dans la théologie courante, libérale, néo-orthodoxe, etc. sont un Danois, Pedersen, pour l'Ancien Testament, et Rudolf Hultmann, bien connu, pour le Nouveau. Pedersen a écrit un livre sur Israël, sa fille et sa culture dans les années 1920, qui a eu une assez grosse influence, et Hultmann, en plus, a écrit pour le Nouveau Testament. Et alors, dans les années 40 ou 50, et encore 60 même, mais les choses ont commencé à changer, ça a été un cliché presque universellement répandu que la pensée hébraïque, qui se trouve dans l'Ancien Testament, mais qui est aussi celle du Nouveau Testament, opposée à la pensée grecque, ne connaît pas la division de l'homme en plusieurs parties, qu'elle est de type thomiste. Qu'elle est, comme on dit souvent, holistique. Je veux dire que voilà comme un tout. Le mot holistique est formé du grec holos, en entier. Alors on dit la pensée hébraïque est holistique, elle ne vise pas. C'est bien un cliché extrêmement répandu. Et la diffusion est telle que même les évangéliques ont été influencés. Je connais très bien, personnellement, j'ai discuté bien des heures avec lui, y compris de ce sujet d'ailleurs, un savant du Nouveau Testament américain, Steve Ellis. Qui, dans certains des articles qu'il a écrits pour le New Bible Dictionary, Defense Press, que vous connaissez, que je vous recommande tant, exprime ce point de vue moniste, holistique, en anthropologie, en la doctrine de l'homme. C'est une position donc, que certains évangéliques ont adoptée. Je dis que c'est jusqu'en 1960 que la chose s'est répandue et il en subsiste des restes considérables aujourd'hui. Je me réjouis personnellement beaucoup de ce que me semble la marée reflue maintenant, et en particulier l'année dernière a paru un livre dans une collection de grand prestige, dans la collection des monographies de la Société des études néo-testamentaires, qui est la grande société de tous les spécialistes de Nouveau Testament dans le monde. C'est la grande société des savants dans ce domaine. Donc, dans la série de ses monographies, des études qu'elle publie, numéro 29, un théologien évangélique, Robert Godfrey, chez l'UNPRI Prec, étudie la notion de corps dans la théologie biblique, particulièrement dans l'anthropologie de Freud, et démolit
ditanya tout à fait de la statiste, la théorie moniste de Peterson et Kupfan, il perce les mots russes de ces plaidoyers qu'on a entendus et réentendus. J'avais essayé de le faire pour ma part dans des exposés oraux à diverses reprises, j'étais tout heureux de trouver ce livre de Gunnery. Il va même sur certains textes plus loin, je voudrais aller, je pense qu'il force un petit peu la note. Il invoque comme preuve des textes qui ne sont pas tout à fait probants, mais il en trouve bien assez qui sont probants, effectivement, et sur lesquels d'ailleurs je vais attirer votre attention. Donc, il y a enfin un renversement de la vapeur. Je crois que ce monisme a été adopté essentiellement pour des raisons de climat idéologique. La tendance de la modernité contemporaine est moniste, pas douteux. Et alors, ces hommes, Pedersen, Kupfan, etc., ont projeté sur le Nouveau Testament et sur l'Ancien, au fond, ce qui était leur pensée d'homme du XXe siècle, influencé par les courants extérieurs. Et alors, comme il était bien manifeste que cette pensée était opposée à la pensée grecque, ils ont tiré parti stratégiquement d'une opposition entre la pensée grecque et la pensée hébraïque à ce propos, mais sans vraiment prouver leur affaire. D'ailleurs, souvent quand on lit ces hommes eux-mêmes, si on vous fait beaucoup de mal, on s'aperçoit qu'ils savent nuancer leur thèse. Par exemple, Goldman reconnaît que dans les écrits de Paul, auxquels ils se sont intéressés, à plusieurs reprises, les mots sont employés dans le sens courant qui implique dichotomie. Seulement, il met ça, il range ça dans une catégorie de cas non intéressants, et il s'appuie sur quelques passages seulement. Oui, par exemple, le sens implique le monisme. Et il reconnaît bien qu'il y a d'autres passages qui ne collent pas avec son schéma. Alors il écoute dans le coin, comme on parlait des poussières, et ne peut pas en tenir compte. Et alors, ses conclusions au cours de la discussion qu'on sait, les gens en faisant répéter certainement ce qu'il avait dit, sans même aller voir que sa démonstration comprend la reconnaissance qu'il y a des passages où l'opinion de Paul n'est pas celle qui viendrait. Donc nous avons, dans la situation actuelle, un point de vue moniste qui est, je crois maintenant, critiqué de façon efficace par certains auteurs, et en particulier par ce que Gunnery dans ce travail scientifique. J'ai l'impression que ce point de vue ne vous a pas tellement touché, que vous n'avez pas été vraiment exposé à ce plaidoyer moniste qui a circulé dans la mémoire, bien que je l'ai vu encore tout récemment, un numéro de chantier publié par les GBU de Spistronome, qui fait toujours cette chose, la Bible, l'homme, l'unité, les paroles, etc., etc., comme si c'était une chose acquise, une évidence, alors que ce n'est que ce qui s'est répété de 1925 à 1945. Je crois qu'il faut encore réagir, mais que les choses sont en bonne voie, du point de vue de la réputation de ce monisme, cette doctrine, et qu'il n'est pas nécessaire que nous y passions aujourd'hui beaucoup de temps. Je vais mentionner la chose, que vous soyez au courant, je suis prêt à vous indiquer quelques lignes de critique supplémentaires à propos de la position moniste, mais pour l'instant, donc, dans mon introduction, je passe. La position dichotomiste, donc la position majoritaire, qui est maintenue de nos jours, le livre de Gunnery, dichotomiste, qui vient d'être publié en 76, et j'ai reçu il y a quelques jours le deuxième volume des œuvres recueillies de John Murray, professeur de théologie systématique à Westminster, deuxième volume, théologie systématique, et bien il se trouve qu'il y a justement un chapitre que j'ai pu lire sur la dichotomie, un chapitre sur la nature de l'homme, un chapitre sur la dichotomie. De nouveau, je souscris entièrement, et il s'agit d'un exposé dichotomiste. John Murray, théologien, donc un des meilleurs, je crois, au XXe siècle, surtout théologien exégète. Ce n'est pas un spéculatif, c'est un exégète parmi les théologiens systématiques. bien ceux qui se pensaient très compétents présentent le type d'arguments que je sais aussi présenter. Je ne présente pas tous ceux que je laisse en avant pour ma part, mais j'en ai trouvé un que je n'avais jamais utilisé et que je vais vous servir tout à l'heure dans son texte. Donc, des hommes très divers, la grande tradition de l'orthodoxie évangélique. Et puis, alors, la trichotomie, je crois qu'il est très important de voir qu'il y a deux trichotomies, au fond, tout à fait différentes, et dont les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Vous avez la trichotomie classique, qui est marginalement, mais qui, quand même, à peu près, à tous les siècles, a eu quelques représentants. C'est la trichotomie qui, divisant l'homme en âme, esprit et corps, ou esprit, âme et corps, considère que l'esprit est le siège de l'intelligence et de la volonté, la partie la plus noble, et que l'âme est une partie intermédiaire, siège des sentiments et surtout des instincts. En fait, on trouve déjà cette pensée d'une âme sensitive, une âme qui est notre principe vital, mais en dessous de l'intelligence, chez les platoniciens, parce que pour trouver quand même un élément intermédiaire dans leur dualisme, il jugeait nécessaire parfois d'avoir une partie intermédiaire. Une partie intermédiaire qu'ils appelaient alors l'âme sensitive, en distinction de l'âme intellectuelle, ou esprit. Alors il y a cette dichotomie classique, où il y a l'esprit, l'intelligence, volonté, partie supérieure, l'âme, en gros, on va dire les instincts, et puis le corps. Et dans le mystère de la foi, vous pourrez voir cette mention du sujet que Ruben Sayens, évoquant la trichotomie, se rattacherait à cette trichotomie classique-là. Et puis vous avez une trichotomie nouvelle. Je ne sais pas très bien comment l'appeler. On peut peut-être dire mystique, mais ce n'est pas tout à fait ça. Non plus, le terme n'est pas tout à fait exact. C'est une trichotomie qui s'oppose très fort à la trichotomie classique. Parce que pour elle, l'esprit est l'organe de l'union avec Dieu, partie supérieure. L'âme est douée de l'intelligence et de la volonté. Et ensuite, vous avez le corps. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose, puisque les fonctions que la trichotomie classique attribue à l'esprit sont cette fois attribuées à l'âme. Alors c'est à cette trichotomie nouvelle que se rattachent en particulier les écrits de Tom Austin Sparks, un prédicateur anglais, dont plusieurs livres ont été traduits en français, et de Rajmani, qui est sans doute l'auteur que vous connaissez, du point de vue de cette trichotomie-là, le mieux.
Est-ce que vous pourriez changer la valeur de l'esprit pour le trichotomiste?
Alors, pour le trichotomiste, donc, de trichotomie B, cette trichotomie mystique, l'esprit est l'organe de la relation avec Dieu. On parlera peut-être parfois à son propos d'intuition pour distinguer l'intelligence, bien que le mot ne soit pas tout à fait caractéristique. C'est plutôt par son élévation au-dessus de l'âme qu'on le caractérisera, sans dire très très précisément comment il fonctionne et quelles sont ses caractéristiques à cet esprit. Certains auteurs, ces auteurs-là, emploient parfois le terme d'émanation à propos de l'esprit. Et je l'ai vu sous la plume de Thomas Hoskins Sparks, ce qui est énorme. Et tu peux dire que je ne vais pas vraiment faire grand usage dans ma démonstration, parce que ce serait trop dévastateur d'emblée. Lorsqu'on dit que l'esprit de l'homme n'est pas créer, les émaner. Alors on tombe dans le panthéisme si on, si on entend les mots avec leur force normale. Mais certains l'ont dit, ont été entraînés de ce côté-là. Ce qui est, on va tout de suite te le dire, contraire à l'esprit formel du Désintarie 12 qui souligne que l'esprit de l'homme est formé, c'est le même verbe qui est employé dans Genèse 2 pour le corps de l'homme, formé par le Créateur, façonné par l'Éternel. Donc il ne s'agit pas d'une émanation, mais bien d'une création pour l'esprit de l'homme. Mais la tendance, c'est d'élever cet esprit de l'homme très haut au-dessus de l'âme, dont il doit en quelque sorte être libéré, c'est-à-dire, je me dis la libération de l'esprit, en suggérant une affinité avec Dieu supérieur. Alors cette trichotomie nouvelle, mystique, vous voyez, est un type différent, et alors on pourrait dire que la trichotomie classique a plutôt une tendance intellectualiste. En un sens, elle est plus intellectualiste que la dichotomie, parce qu'elle se sent obligée d'élever l'intelligence au-dessus des instincts, voyez, de séparer entre la partie âme vitale et puis l'intelligence mise au-dessus. Donc alors qu'on pourrait dire que la dichotomie classique est même plus intellectualiste que la dichotomie, au contraire, la dichotomie mystique est anti-intellectualiste, parce qu'elle rabaisse l'intelligence au niveau de l'âme et elle élève l'esprit au-dessus. Donc, les tendances sont tout à fait opposées. Alors, à ma connaissance, cette trichotomie mystique n'a pas vraiment eu de précurseur avant le XXe siècle. Je ne connais pas d'auteur. La seule chose que j'ai vu évoquer, c'est quelques nominalistes de la masse scolastique et peut-être une ou deux références chez Luther, des formules dans l'école nominaliste. Luther est habituellement dichotomiste. Beaucoup de citations qu'on pourrait donner. Mais, vous savez, il n'a jamais cherché la cohérence systématique, et il semble que, quelquefois, il s'est exprimé un peu dans le but de cette trichotomie-là, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il soit un précurseur. C'est essentiellement une doctrine du XXe siècle.
Monsieur Caillat, je voudrais savoir ce qui donne la vie au corps, c'est la présence de l'esprit ou de la vie?
Je n'ai pas vu de réponse à cette question précise. Ici. Je ne peux vraiment pas vous dire ce que répondraient les hommes. Je pense qu'ils répondraient quand même que c'est l'âme, et ce serait assez logique de répondre ainsi, puisque le mot âme est une des deux traductions du mot psyché dans le Nouveau Testament, néphèche pour l'ancien, mais on peut aussi traduire vie. Alors il est assez naturel de répondre que si j'en ai, ben c'est l'âme, puisque le mot lui-même évoque le principe de vie dans bien des contextes.
Est-ce qu'il serait exagéré de dire, pour simplifier, de dire que, en général, les partisans de la dichotomie art seraient plutôt partisans de mon rapport chez Dieu par le cul, par des textes comme vous le récitez. Et ceux de la dichotomie B seraient plutôt tendance à charismatique avec des manifestations féminines.
Alors, je crois que le choix de cette trichotomie-là, plutôt que de l'autre, de la dichotomie, a des conséquences pour la forme de la piété, pour le privilège qu'on donnera à l'étude ou pas. Je crois que c'est pour ça que cette question n'est pas une question purement académique, que vraiment elle compte, elle s'accroche à ce donné existentiel de la question de l'homme sur soi-même. Quelle est ma relation à mon corps, etc. Mais elle a aussi ensuite des conséquences. C'est vraiment quelque chose qui se rattache à la pratique, qui n'est pas sans importance. Je ne pense pas que c'est une importance suffisante pour qu'on inclue ça dans une confession de foi. Je crois que ce sont les questions les plus importantes qui doivent être dans les confessions de foi. Mais quand même, ce n'est pas une question tout à fait secondaire, indifférente que cette question-là. Il y a des conséquences que certains tirent, d'autres ne tirent pas. Mais on peut tirer. Alors, quelles sont les étapes que l'on doit suivre pour prendre décision, pour déterminer les enseignements bibliques sur ce point? Le gros travail, c'est le travail d'exégèse, le travail de synthèse des textes bibliques.
Je pense que c'est seulement après qu'il est bon de faire valoir quelques arguments plus généraux d'ordre théologique. Alors je vais essayer de vous donner un canevas. Bon, je ne crois pas quand même que je prenne trop de temps, il faut qu'on se mette dans l'entretien. Un canevas de la manière d'établir la vérité dichotomiste, bibliquement, et de réfuter la thèse trichotomiste, puisqu'elle me semble à réfuter, et ensuite, j'ajouterai quelques points de réflexion théologique. Alors le premier pas qu'on peut faire, c'est de chercher quels sont dans l'Ancien et le Nouveau Testament les textes qui suggèrent une structure pour l'individu humain. Lorsque les mots sont employés en combinaison les uns avec les autres pour décrire ce qu'est l'homme, bien, il est probable que ces mots sont la structure de l'homme qui est en cause. Alors, quelles sont les données que l'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament à cet égard? Dans l'Ancien Testament, il faut reconnaître que les choses ne sont pas d'une clarté, d'une netteté qui a été en discussion. Dans l'Ancien Testament, il y a bien sûr le passage de Genèse 2 qui suggère une dualité dans la composition de l'homme, de 7, puisque comme pour les animaux, l'homme est fait de limon qui est écrit par le divin potier, comme nous aussi sont faits dans l'esprit de Genèse 2 de la même manière, mais qu'en plus, pour l'homme, il devient l'être vivant qu'il doit être, Dieu insuffle en lui une haleine de vie. Cela suggère que dans le cas de l'homme, il y a une dualité de principes constitutifs qu'on ne trouve pas dans l'animal. Or, l'animal, son corps, ça veut dire que l'homme n'est pas seulement son corps. Et comme il s'agit de quelque chose qui s'est ajouté à l'organisme qui est éthique, du limon terrestre, cela suggère qu'il s'agit d'une seconde partie. Voilà ce qu'on peut dire, mais ce n'est pas une preuve absolument parfaite. Connaissons. Donc ça, quelque chose d'absolument inévitable, quelqu'un peut dire, mais c'est une façon d'engager pour dire que Dieu donne la vie à cet être. C'est tout. Et ce n'est pas une partie de son individu. À ce moment-là, il est difficile de répondre sur la base du seul texte de Genèse. Il y a des textes très nombreux qui évoquent l'âme, l'esprit, le cœur, et puis d'autre part la chair, le mot corps. Il n'y avait pratiquement pas dans l'Ancien Testament le mot corps bien spécialisé, quelques passages seulement, à partir d'un mot qui signifie le dos. Le mot chair évoque parfois le corps, que nous appelons le corps, mais il n'y a parfois d'autres endroits, c'est un mot de très élastique. De même, le mot âme, nefesh, est un mot dont les sens sont extrêmement divers, il y a bien 757 fois dans l'Ancien Testament, et il peut vouloir dire le principe de vie, il peut vouloir dire des aspirations, des désirs, il peut vouloir dire un cadavre, quelquefois, c'est très rare, il peut désigner un cadavre, c'est vous dire, à la fleur de ce qu'on appelle le spectre sémantique, la gamme des sens, et puis il désigne, il y a souvent ça veut dire, la personne en son centre. Mais est-ce que ça veut dire une dualité constitutive? Ça veut dire qu'il y a l'âme comme être intérieur et puis ensuite la chair ou le corps comme au-delà. Gundry fait beaucoup d'efforts pour le montrer, pour dire oui, oui, ça veut dire ça. Et je pense que sa démonstration mérite d'être étudiée. Mais en même temps, il me semble qu'il n'y a pas d'exemple assez formel pour le mettre contradicteur. En tout cas, c'est plutôt une dualité qui est suggérée dans ces textes-là. Il n'y a pas de texte qui suggère une triplicité à cet égard. C'est tantôt le moral, tantôt le esprit du Cambodge. Nous avons du film au cœur, alors c'est pas souvent. Mais encore, 1853, que mon cœur est envoyé. Le cœur est un organe d'abord de l'intelligence, puis de la volonté, puis des sentiments, après le nombre des usages. Mais il y a quand même deux ou trois passages qui semblent avec qualité une structure double. Il y a le texte de Job, où les hommes sont appelés les habitants de maison d'archives. Job 4, si je me souviens bien, Job 4 au 19. La maison d'archives, c'est certainement le corps. C'est une évocation de la Genèse. Que l'homme soit appelé l'habitant de son corps, ça suggère bien une dualité de structure. Entre la personne et sa maison, il y a nécessairement une distinction. Donc l'expression habitant et maison d'archives fait penser à une conception dichotomiste, à l'affirmation d'une dualité. Je suis sûr que si les gens qui lisent l'Ancien Testament et l'Égoïste lisaient cette formule chez Platon, ils écrivaient voilà l'humanisme de Platon. Comme c'est dans l'Ancien Testament, elle peut être glissée par-dessus, mais une formule quand même qui suggère assez nettement la dualité. Et l'autre parole assez énigmatique se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 7, et au verset 15. Daniel parle de l'effet qu'a produit sur lui la vision qu'il a eue du chapitre 7. Et il parle du frémissement de son esprit dans son fourreau. Le mot qu'il envoie signifie fourreau. Je ne sais plus comment la Torah traduit cet endroit. La Bible de Jérusalem a supprimé purement et simplement le nombre de phrases en considérant qu'il était obscur. Une façon comme une de se débarrasser d'un texte qui ne convient pas tout à fait à la théorie qu'on a de même. Dans le cas de la Torah, sur des traduites de façon exacte. Mon esprit à moi, Daniel, est angoissé au-dedans de son enveloppe et les visions de mon esprit me tournent en tête. Donc là, nous avons de nouveau une chose qui évoque nettement une dualité de l'esprit et puis son enveloppe. Voilà ce qu'on peut trouver en compte dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, alors la moisson est beaucoup plus riche. Dans le Nouveau, on trouve des expressions assez nombreuses. Pratiquement toutes, sauf une, impliquent une structure double. L'homme est envisagé avec les deux termes âme et corps. Dans certains passages, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Jésus. Vraiment difficile de ne pas trouver là l'affirmation d'une dualité anthropologique. L'affirmation que l'âme a une existence peut-être séparée du corps même. Matthieu 10, 28. Vous avez aussi 3 Jean 2. Que ton corps se porte aussi bien que ton âme. Donc vous avez âme et corps en 3 Jean 2. Vous avez cœur et corps en Hébreux 10, 22. Vous avez esprit et corps en 1 Corinthiens 5, 3. Absent de corps mais présent d'esprit. 6, 12 et suivant. Un seul corps, un seul esprit, etc. 7 contre 4, la femme perd son mari. Esprit et le corps, si vous voulez bien. Et Jacques 2, 23. Je signale à ceux qui ont la version seconde qu'en Jacques, c'est le mot esprit qui est employé dans l'original, le mar, et non pas le mot âme. Le corps sans âme est mort, dit la version seconde, en fait, c'est le corps sans esprit. Mais c'est le mot, c'est le double. Jacques 2, 23.
dans un certain nombre de textes sur esprit et corps. Oui, esprit et chair. 1 Corinthiens 5, 5. 2 Corinthiens 7, 1. Colossiens 2, 5. Et puis vous avez, en frère, des expressions que j'aime beaucoup, qui me paraissent en notre siècle, celles qui seront le plus facilement comprises par un auditoire ordinaire, homme intérieur et homme extérieur. D'ailleurs, même quand une des deux seulement de cette expression est employée, elle indique l'autre. Si un homme intérieur, c'est qu'un homme à l'extérieur, et inversement. 2 Corinthiens 4, 16, Éphésiens 3, 16, 1 Pierre 3, 4, et là, l'homme intérieur est défini comme équivalent au cœur, c'est l'homme intérieur du cœur, l'homme caché du cœur. Romains 7, 22 et suivant, Romains 7, 22 et suivant, et là, l'homme intérieur est défini comme équivalent au nous, de la rédimilance. Et puis on pourrait comparer encore Matthieu 15, 10 et suivant, c'est pas des textes exactement identiques, mais ils sont très intéressants pour le débat, je les cite, Matthieu 15, 10 et suivant, et Romains 2, 28 et suivant. Tous ces textes se gèrent sur tout. Il s'agit d'un passage de la structure de l'humanité, semble-t-il, dans tous ses composants, et chaque fois il s'agit de deux termes, pas les mêmes des fois, j'avais dit un jeu, mais chaque fois deux, qui sont employés. Il y a un texte où ces trois, ils apparaissent employés, c'est le texte d'un des Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, votre être, l'esprit, l'âme et le corps, sera conservé, il est ainsi, pour le Seigneur Jésus. Il me semble que la première section, c'est la première chose à voir, quels sont les textes qui suggèrent une structure. Dans l'ordre, cette première section, ça nous conduira à considérer que le plus probable, c'est une position dichotomiste, puisque c'est celle qui semble, dans tous les textes, sauf un, tous les textes qui évoquent une structure, l'ensemble de l'individu humain, tous les textes sauf un ressortis, textes anciens, textes récents, dans la Bible, de tout sens. Il faudrait, pour que le texte de 1 Thessaloniciens 5, 23, les équilibres, les compenses pour obliger à la dichotomie, il faudrait qu'ils ne puissent vraiment pas être compris autrement. Du moment que la grande multitude des textes sur ce sujet nous présente une structure double, celui qui veut affirmer une structure triple, il doit être absolument sûr que le texte qu'il invoque ne peut pas avoir d'autre sens. À cette condition seulement, il pourra dire, eh bien, les autres textes sont incomplets, et ça, il faut leur rajouter le troisième terme. Autrement, on n'aura pas le droit de le faire. Il me semble que je suis en mesure de dire, ou je peux dire, que les tenants de la trichotomie que j'ai pu lire, ancienne ou moderne, classique ou mystique, ces tenants de la trichotomie ne procèdent pas selon une méthode rigoureuse. En général, ils ne font pas cette enquête globale. Ils ne cherchent pas à savoir ce que disent l'ensemble des textes sur le sujet. En général, ils connaissent essentiellement les Thessaloniciens 5, 23. Ça leur semble une preuve suffisante, ils démarrent là-dessus, ils en sont persuadés, et voilà. Pour eux, c'est réglé parce qu'il y a un Thessaloniciens 5, 23. Je ne pense pas que ce soit une méthode rigoureuse. Il faut prendre tous les textes et les comparer entre eux. Donc ça, c'est, si vous voulez, la première étape de la démonstration, où on peut davantage dans le détail, dans l'entretien, parce que nous avons le temps. Deuxième étape de la démonstration, celle qui concerne les deux termes d'âme et d'esprit, puisque c'est à leur propos qu'il y a division entre les dichotomistes et les trichotomistes. Comment sont employés ces termes? Et je me suis possible de recourir à l'original pour ne pas se laisser tromper par un traducteur. L'exemple de Jacques II, que j'ai expliqué tout à l'heure, montre qu'on peut faire des erreurs en se reportant simplement à des traductions. Puisque dans ce cas-là, le mot qui est traduit ordinairement esprit a été traduit âme par second. Donc on ne peut pas se baser sur des traductions seulement, il faut aussi recourir à l'original, de chercher quels sont les usages de Nefesh et de Roi pour l'Ancien Testament, et les usages de Chifré, Gay et de Pneuma dans le Nouveau Testament.
Alors, à quoi aboutit-on à propos de ces divers usages? Là, de nouveau, je vais essayer de résumer. Je crois que l'on voit quand on examine les usages, que si quelques nuances, des connotations différentes s'attachent aux termes en cause, s'ils ne sont pas purement et simplement des synonymes, ils sont cependant employés si souvent de manière équivalente qu'il est tout à fait arbitraire de leur faire désigner des parties différentes de l'homme. S'ils désignaient des parties différentes de l'homme, on aurait un usage où ils seraient bien distingués. Or, ils ne le sont pas. Dans bien des cas, c'est un mot pour l'autre ou l'autre pour l'un. Des mots, des textes absolument parallèles, dans des situations semblables, emploient l'un âme, l'autre esprit. Aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Cela ne se produirait pas si nous avions vérité de la thèse trichotomiste. On peut relever en premier lieu que, aussi bien en grec qu'en hébreu et en hébreu qu'en grec, c'est au fond la même image qui est à l'origine pour chacun des deux termes, l'image du souffle. Aussi bien Nefesh que Roi, que Psuché et que Pneuma évoquent le souffle. Alors le souffle un peu différemment, le souffle de la respiration plutôt, pour Nefesh, le souffle volontaire émis par, pour la Roi. Et quand même, c'est fondamentalement la même image. Il y a un nombre important de textes avec des usages synonymiques dans la poésie hébraïque entre âme et esprit. Et rappelez-vous pour le Nouveau Testament le Magnificat. Vous retrouvez cela, qui ne semble pas correspondre à l'idée qu'il s'agirait de deux parties différentes, avec des fonctions différentes. Il y a le fait, dans le Nouveau Testament, que ce qui subsiste de l'homme après la mort, dans le cas du croyant au moins, est désigné deux fois à l'aide du terme esprit et deux fois à l'aide du terme âme. En tout cas une fois, pour chacun des deux mots, et personnellement je crois, c'est un texte disputé, aussi une deuxième fois. Le mot esprit est utilisé dans Hébreux 12, les esprits des justes parvenus à la perfection. Voilà. Les justes qui sont parvenus à la perfection, qui sont avec le Seigneur, dans l'état intermédiaire, sont appelés des esprits. Et dans 1 Pierre 3, les esprits qui avaient été rebelles au temps de Noé, qui avaient été désobéissants, semblent aussi être ces hommes sans leur corps, attendant dans l'état intermédiaire, dans l'au-delà. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est le mot âme qui est employé. Bon. Chapitre 6, je vis les âmes de ceux qui avaient été mis à mort sous l'autel. Et personnellement, je pense qu'Apocalypse 20 se réfère de même aux croyants dans l'état intermédiaire. Je vis les âmes. En tout cas, en Apocalypse 6, ce n'est pas discutable. En Apocalypse 20, ça peut être discuté, mais vous voyez, les mots âme et esprit sont employés tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est d'ailleurs conforme à l'usage dans le judaïsme. Dans la littérature apocalyptique d'entre les testaments, dans la littérature énochienne en particulier, âme et esprit sont employés aussi de façon équivalente. Et la position dichotomiste, Gundry le démontre très très bien avec une grande multitude de textes, était position acceptée dans le judaïsme au temps de Jésus et des apôtres. S'il n'avait pas été d'accord, ce serait apparu. Il aurait dit, au contraire, leur langage s'adapte tout à fait à cette position-là. À propos des deux termes d'âme et d'esprit, on peut aussi considérer les attributions qui sont données, comme la position qui, je crois, sollicite votre adhésion, votre attention le plus, c'est la trichotomie mystique. Je soulignerai qu'il y a de nombreux textes qui attribuent à l'esprit des fonctions intellectuelles, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons pour l'activité de plan, de volonté, de projet, toute une série de textes. Genèse 41.8, Deutéronome 2.30, Job 20, verset 3, Ésaïe 19, verset 3, Ézéchiel 11, verset 5. Nous n'avons pas le temps de les étudier en détail, pour revenir sur l'un ou l'autre si ça vous intéresse tout à l'heure, mais tous ces textes attribuent des opérations, soit de volonté, soit d'intelligence, à l'esprit. Rouard. Alors c'est une contradiction directe de la thèse de la trichotomie mystique qui attribue tout cela à l'âme seulement et non pas à l'esprit. Dans le Nouveau Testament, on peut citer Actes 19, 21, et au sujet du projet de Paul, et 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2, 11 est particulièrement intéressant parce que nous y voyons que l'esprit de l'homme au-dedans de lui, c'est l'organe de la conscience psychologique. Cette vie intérieure par laquelle nous nous connaissons, et c'est toute la vie de notre intelligence, c'est l'esprit pour Paul. Et ayant donc parlé de l'esprit de l'homme comme il le fait, Pneuma, au verset 15, verset 11, excusez-moi, l'apôtre continue en disant que nous avons l'esprit de Christ. Vous savez, à la fin du verset. Or, il emploie là le mot qui veut dire intelligence. Il est traduit esprit dans nos versions courantes, mais c'est le mot nous, l'intelligence, la raison. Donc ça c'est un premier point qu'on peut relever. Et deuxièmement, c'est une traduction, parce que l'apôtre Paul calque son langage sur Ésaïe 40, c'est une traduction de l'hébreu. Or dans l'hébreu, c'est le mot ruach, esprit, qui est employé. C'est pour ça que la traduction française peut très bien mettre l'esprit ici. Mais vous voyez, le mot qui veut dire esprit en hébreu est traduit intelligence en grec. Paul le reprend comme tel. C'est bien dire que pour lui, il n'y a pas à faire de disjonction entre l'intelligence et l'esprit, au contraire. Donc en Corinthiens 2, le mot esprit intervient, esprit intelligence, nous avons l'intelligence de Christ, intervient tout à la fin du chapitre, c'est le dernier verset, c'est verset 16 sans doute, ou 17, je vais vérifier tout de suite, puisque c'est verset 16. Car qui a connu l'Esprit du Seigneur, pour lui donner des conseils, Ésaïe 40.13, le mot esprit ici, c'est le mot nous en grec, le mot intelligence. Paul le reprend en ajoutant, nous avons l'Esprit du Seigneur, du Christ. Mais c'est une citation, qui a connu l'Esprit du Seigneur, c'est une citation d'Ésaïe 40, verset 13. Or là, c'est le mot roar qui est employé. Vous voyez comment la combinaison de ces versets montre que la faculté intellectuelle est considérée comme de l'esprit dans un tel passage. Alors il me semble que cet ensemble de données contredit très, très sévèrement la thèse de la trichotomie mystique. Alors évidemment, la trichotomie classique n'est pas touchée par là. Il faudrait prendre les termes, le mot « âme » reçoit les fonctions intellectuelles. Je crois qu'on en trouve aussi. Je n'ai pas fait spécialement la moisson de ces textes parce que la controverse n'est pas si brûlante avec la trichotomie classique. Mais vous voyez donc où nous en sommes. Alors, ayant établi donc ces données d'ensemble, il faut aborder les objections qu'adressent les trichotomistes. Tout d'abord, je vais commencer par là, l'objection sur ce point précis des facultés intellectuelles et de l'esprit. Puisque c'est le dernier point abordé, commençons par là. Il y a un passage, un seul de nouveau, mais il y a un passage qui suggère que l'intelligence est autre chose que l'esprit. C'est le passage d'un Corinthiens 14, la même épître d'ailleurs, c'est intéressant. Dans 1 Corinthiens 14, à propos du parler en langue, vous savez que l'apôtre dit « Si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. » Verset 14. Quoi donc alors ? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence, je chanterai par l'esprit, je psalmodierai par l'esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. Voilà ces deux versets. Alors, les trichotomistes mystiques disent, voilà, il y a l'esprit d'un côté, il y a l'intelligence de l'autre. C'est la preuve que l'intelligence appartient à l'âme et non pas à l'esprit. Vous voyez la façon dont ce texte est lu et exploité. Alors, réponse à cette objection, c'est une lecture qui ne s'impose pas du tout. Car on peut très bien comprendre ce que dit Paul en supposant que l'intelligence est une fonction de l'esprit. Ce n'est pas tout l'esprit, mais c'est une fonction de l'esprit. Paul peut très bien dire, mon esprit, mon être intérieur est en prière, mais mon intelligence, cette fonction particulière de l'esprit, est sans fruit. C'est tout à fait possible de lire comme ça. Donc ce n'est pas du tout une preuve qu'on doit diviser comme la trichotomie mystique le fait. J'espère que tout le monde donc saisit le sens de cette réponse. Et j'ajoute alors, deuxième pas, que quand on lit le verset 15, c'est plutôt cela qu'il favorise. Car quelle est l'envie de Paul, le désir de Paul ici? Il veut faire comprendre à ses lecteurs que c'est mieux de prier par l'esprit avec l'intelligence plutôt que sans l'intelligence.